chez-les. Yé, yé, sous les tam, tam, de yé, yé, yé. Je ferai du ram, dame, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai. J'ai un coupe, coupe, à cran d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yé, yé. Sous les tam tam de yé yé yé, fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou, fou, fou de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yé yé. Ni les tam tam de yé yé yé, ni les gris gris. Ouais, bon.
Quand ça baisse pas mec, ça cherche la castagne. Ça les baloche gonflées de vieux foutres et de hargne. Quand ça baisse pas un mec, ça s'enroule et ça donne un CRS de plus pour commencer charonne. Ah si t'avais osé quand t'étais petit, ah si t'avais caressé ta nourrice, tu serais moins con que tu n'es aujourd'hui. Je veux dire que tu ne serais pas dans la police. Quand ça baisse pas un mec, ça cherche la bigorne. Ça les joyeux soudain qui se mettent à faire les cornes. Quand ça baisse pas un mec, ça s'enroule et ça donne un général de plus pour nous refaire bastogne. Ah si t'avais osé quand t'étais petit, si tu t'étais titillé la vipère, tu serais moins con que tu n'es aujourd'hui. Je veux dire que tu ne serais pas militaire. Quand ça baisse pas un mec, ça cherche le carnage. Ça les roupettes plus rouges qu'écrevisse à la nage. Quand ça baisse pas un mec, ça s'enroule et ça donne un tartarin de plus pour massacrer la faune. Ah si t'avais osé quand t'étais petit, ah si t'avais un peu joué au docteur, tu serais moins con que tu n'es aujourd'hui. Je veux dire que tu ne serais pas chasseur. Quand ça baisse pas un mec, ça cherche le massacre. Ça les bouboules violettes comme celle d'un archidiacre. Quand ça baisse pas un mec, ça s'enroule et ça donne un missionnaire de plus pour violer la madone. Ah si t'avais osé quand t'étais petit, si tu te l'étais trempé dans l'eau bénite, tu serais moins con que tu n'es aujourd'hui. Je veux dire que tu ne serais pas jésuite. Ça baisse pas un mec, ça cherche la conquête. Ça les grenades en feu qui crament la braguette. Quand ça baisse pas un mec, ça s'enroule et ça donne un homme d'état de plus pour dégueuler l'atome. Ah si t'avais osé quand t'étais petit, si tu te l'étais fait glouglouter gaiement, tu serais moins con que tu n'es aujourd'hui. Je veux dire que tu ne serais pas président.
Faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sylvie, de l'émission Lundi Matin. Tous les lundis matins sur Radio Libertaire, de 11h à 13h le lundi matin. Et puis, nous avons la visite d'Ida. Bonjour Ida.
Bonjour Denis, bonjour Sylvie.
Et voilà, ainsi commence l'entonnoir et on va parler encore une fois d'un livre qu'on a beaucoup apprécié.
Tu m'étonnes.
Je ne serai plus psychiatre de Gérard Hoff.
Et
auparavant, une petite annonce, oui.
Oui, voilà, c'est le groupe Libertaire d'Ivry, donc dont je fais partie, qui organise la librairie du Monde Libertaire, la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, métro République Oberkampf du Calvaire. Donc le dimanche 10 novembre, donc de cette année, quoi, à partir de 16h, l'accueil dès 15h, l'entrée est libre. Donc à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry, une projection, discussion, jeux vidéo et politique. Il y aura la projection d'un documentaire de 35 minutes de 2023, le jeu vidéo, une affaire d'homme, point d'interrogation. Donc le jeu vidéo, comme le cinéma, la BD, la littérature, peut servir de support à des idées politiques de tous bords. Ce court-métrage s'attaque plus spécifiquement au sexisme. Mais de façon plus générale, existe-t-il des jeux luttant contre toutes les formes de discrimination ? Contre le capitalisme, l'État, la religion. Des jeux vidéo anarchistes.
Voilà, donc... avant de commencer la lecture de certains extraits de Gérard Hoff, je propose un article qui se retrouve dans plusieurs journaux, parce que c'est un peu une dépêche de l'AFP qui a dit la même chose dans tous ces journaux. C'est le procès de l'ASE à Châteauroux. Sur l'internaute, c'est « L'horreur vécue par des dizaines d'enfants se dévoile ». Donc ça, c'est un article du 14 octobre 2024. Ce lundi, s'est ouvert un procès hors norme à Châteauroux. 19 personnes sont jugées pour avoir accueilli sans agrément les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Hors norme, tel est l'adjectif le plus employé pour qualifier le procès de 18 personnes, le 19e prévenu étant mort en avril dernier, jugé depuis ce lundi 14 octobre et pendant 5 jours au tribunal correctionnel de Châteauroux dans le centre Val-de-Loire. Elles comparaissent entre autres pour violence, travail dissimulé en bande organisée, accueil de mineurs sans déclaration préalable, administration de substances nuisibles ou usage de faux en écriture et risque jusqu'à 10 ans de réclusion. Ils se comprennent de moins. Pendant 7 ans, de 2010 à 2017, l'aide sociale à l'enfance du Nord a confié des dizaines d'enfants à la structure d'accueil Enfance et Bien-être, basée dans l'Indre, moyennant des indemnités qui s'élèveraient à au moins 630 000 euros sur les 7 années. Jamais déclarée au fisc, souligne Radio France. Une structure qui ne disposait pourtant pas de l'agrément nécessaire. Résidentes dans l'Indre, la Creuse et la Haute-Vienne, les familles d'accueil qui se voyaient confier les enfants n'avaient pour leur part pas non plus d'agrément. Pire encore, certaines s'étaient même fait retirer un premier agrément selon la cellule d'investigation de Radio France et Mediapart, après avoir été condamnées pour agression sexuelle sur mineurs. L'hospitalisation d'un des enfants à l'origine de l'affaire. Outre l'absence d'agrément, de nombreux enfants confiés ont fait part de violences subies, alors même qu'ils étaient placés par celle qu'on appelle encore la DAS, du travail forcé au sévice, en passant par des surdosages médicamenteux ou des humiliations. Ces enfants ont été violentés, insultés, maltraités, et le silence est le roi, a déploré lundi en ouverture du procès l'une des avocates des victimes, Maître Myriam Gage Benayoun. Ouais, normalement, on ne devrait pas faire la publicité pour les baveux, mais bon. Au micro de BFM TV, l'avocate s'interroge, comment est-ce possible qu'on ne soit pas venu voir où les enfants étaient logés ? Pointant le fait que certains étaient logés dans des caravanes complètement insalubres, sans eau, ni électricité, ni chauffage. À l'origine de l'affaire, l'hospitalisation pour un accident de vélo, entre guillemets, de Mathias, lui affirme aujourd'hui qu'il s'agissait plutôt d'une violente agression, alors qu'il dit avoir été soumis quotidiennement à des travaux forcés, tonte de mouton, récolte du maïs, la moisson. Il explique avoir été poussé sur un poteau métallique et avoir reçu une douzaine de coups de pied dans la tête par la suite, ce qui lui vaudra 6 jours de coma. L'ASE absente du banc des accusés. C'est en refusant de retourner chez son bourreau qu'il a finalement mis en lumière ce réseau qui aurait fait potentiellement une 60aine de victimes, comme le relaie la Nouvelle République. Avec Mathias, Angelina, Camilia, Maeva et Damien, ils sont au moins 5 victimes à vouloir témoigner durant ce procès. Aujourd'hui, la victime regrette qu'aucun responsable de l'aide sociale à l'enfance ne soit sur le banc des accusés. C'est la première fois qu'un procès pointe directement l'ASE, affirme auprès de l'AFP, dont le Figaro se fait l'écho, la présidente de l'association Innocence en danger. Selon elle, avec ce procès, on a l'occasion de crever un abcès gigantesque et d'offrir une seconde chance à des enfants qui ont vécu l'horreur. Bon. Voilà, donc il y a d'autres articles aussi sur ce sujet. Et 7 ans de prison ont été requis contre les 2 principaux prévenus. Et 20 000 euros d'amende. Voilà, donc on n'entre pas dans les détails, mais c'est ce qui s'est passé. Donc la procureure de Châteauroux a fait ses réquisitions le 18 octobre, ce vendredi 18 octobre. Et la décision du tribunal a été mise en délibéré, elle sera rendue le 18 décembre. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire ? Je crois que tout est dit. voilà, eh bien, on va passer à Je ne serai plus psychiatre, sans transition.
Tu peux peut-être, parce que c'est vrai qu'on a fait plusieurs émissions dessus, mais previously, dans l'entonnoir,
oui.
Est-ce que tu peux quand même nous représenter le Gérard Orff et le livre Je ne serai plus psychiatre ? Même si le titre donne une idée, évidemment, du contenu du bouquin, de présenter un peu le personnage.
Ben, Gérard Orff, c'est un militant révolutionnaire des années 70. Enfin, qui aime beaucoup. Il a été, avec Françoise Daubonne, fondateur du FARP.
Le Front homosexuel d'action révolutionnaire.
Il a participé donc à l'antipsychiatrie française avec cette révolte organisée au Vinatier, dont il est question un peu dans ce livre, enfin pas mal aussi, mais il avait annoncé à l'émission Apostrophe, je crois, qu'il allait écrire un deuxième livre sur ce sujet, sur la révolte psychiatrique en France, enfin sur les événements au Vinatier, et il n'a pas eu l'occasion de l'écrire, il est passé à d'autres choses. Donc c'est avec Françoise Daubonne aussi qu'il avait saboté, enfin comment dire, fait une petite explosion en construction de Fessenheim à l'époque, centrale nucléaire. Bon, un attentat symbolique surtout. Et puis il est allé en Allemagne soutenir le groupe SPK, le groupe de patients en psychiatrie soutenu par Wolfgang Huber, qui lui aussi était un psychiatre qui ne voulait plus continuer à être psychiatre.
C'était un groupe de patients qui était auto-organisé.
C'est ça, voilà, oui. Qu'est-ce que je veux dire ?
Et puis il est mort, finalement. Il s'est fait donc, en réalité, il sera plus psychiatre, mais il s'est fait dégager, si j'ai bien compris. De toute façon, il plaisait pas trop.
Il s'est fait dégager, et apparemment, oui, assez violemment, oui. Et il a dû même, à un moment, s'enfuir, enfin, partir de la France. Il est allé au Liban, en quelque temps. Il est revenu, et c'est quand il est allé ensuite en Allemagne, rejoindre peut-être les mouvements insurrectionnels de l'époque, la fraction armée rouge sévissait encore à l'époque. Et bien, c'est là qu'il s'est retrouvé en prison, et parce qu'il était fiché comme terroriste, quoi. Et puis voilà, ça n'a pas très bien fini. Bon. Et c'est un peu ces épisodes-là aussi, peut-être, qu'on va évoquer aujourd'hui dans le livre. En tout cas, c'était un militant vraiment... Bon, le SPK, ça l'a beaucoup inspiré aussi pour construire révolution antipsychiatrique en France. Sa révolution antipsychiatrique en France. Il a aussi participé à la création du groupe Information Asile. Enfin, il a été un petit peu partie prenante, dans le sens où il a dû sans doute produire des textes pour Tant qu'on a la santé, La porte change de camp, toutes ces brochures qui étaient éditées par le GIA, le groupe Information Asile.
Il critiquait l'antipsychiatrie quand même, il me semble. Enfin, il se définissait pas comme faisant de l'antipsychiatrie.
Oui, il s'affichait pas comme. Mais il a eu quelques échanges un peu. Enfin, quelques démêlés avec, par exemple, Félix Guattari. Il avait dit des échanges pas très. Pas très. voilà. Mais. Ouais, c'était un petit peu un militant de terrain, surtout, on pourrait dire.
Donc, tu vas nous lire encore des extraits ?
Oui, si vous voulez bien. Bien, d'accord. Ben je vais passer au micro du studio.
Ida, tu connaissais pas du tout ce personnage ni ce livre, alors ?
Je suis pas sûre que je ne connaissais pas. On en avait déjà parlé. Ouais, mais on n'avait pas étudié. Enfin, on n'avait pas fait d'analyse de livre, quoi, comme vous le faites aujourd'hui. Enfin, analyse de livre.
Bah, c'est un petit peu lecture ça quand même. Livre. Oui, lecture, mais enfin, en général, on fait quand même des commentaires. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, par exemple. Donc, c'est plutôt des passages, comme on a déjà fait au moins 5 ou 6 émissions.
Tu as raison.
Là, mais il y a de quoi, parce que tu me disais au début, il faudrait lire tout le bouquin, en fait. Mais, et pourquoi pas ?
Oui.
Pourquoi pas, moi aussi.
Alors, je ne suis pas à la bonne page. Alors déjà, je cherche la page par laquelle je vais commencer. Ah oui, voilà. Donc.
Oui. On va s'en sortir. Le suspense est insoutenable.
Donc, je vais vous lire un extrait, donc de long extrait, surtout de l'introduction, de la préface, intitulée « Les voies, où sont-elles allées ? Gérard, une trajectoire de désertion ».
Qui a fait la préface ?
Et donc la préface est écrite par...
C'est l'éditeur, en fait.
L'éditeur, oui. Et qui s'appelle...
Parce que ça, en fait, c'est une édition nouvelle. C'est un livre qu'on trouve, d'ailleurs, par exemple, à Publico. Il est en ce moment à Publico.
Oui, il est paru en 2023. Et l'auteur, voilà. L'auteur de, ce, de cette préface, c'est Renaud Selim Sanli.
C'est une réédition. Il était paru d'abord en...
Dans les années 70.
70, oui. Voilà. Ouais, ouais. Et ça, c'est une réédition. Et donc, la préface est de...
D'ailleurs, à l'époque, il avait fait l'objet de cette émission de Bernard Pivot, apostrophe.
Qu'on avait projeté, d'ailleurs, à Publico.
Oui, une fois, oui.
Et c'est quelle édition?
Et alors là, c'est les éditions Météor. Les éditions Météor, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, on va revenir un peu sur le SPK, si vous voulez.
Oui.
SPK, c'est le Socialistische Patienten Collectif, le collectif socialiste des patients, des patients en psychiatrie. Alors, on rappelle que Gérard Roff s'était engagé tout en embarquant avec lui infirmières et patients et infirmiers dans l'agitation politique en espérant pouvoir, je cite, libérer le délire sous-jacent qui a attiré le psychiatre vers, qui l'a attiré lui vers cette profession morbide de voyeur. Et il fonde le comité de lutte du Vinatier et l'hôpital est pris d'une ébullition révolutionnaire. À son apogée, la situation sera quasi insurrectionnelle. Voilà, c'est ce qu'on vous a un peu raconté pendant toutes ces émissions. Donc, les assemblées autonomes à l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital et la désobéissance collective viennent troubler la marche normale de l'hôpital et les rapports hiérarchiques institués. Alors, l'événement n'est pas isolé, il s'inscrit dans une perspective internationaliste, puisqu'en 1972, le comité de lutte du Vinatier fonde l'International des Fous Furieux avec le SPK, groupe de patientes révolutionnaires organisé autour de la politisation de la maladie à Heidelberg, en Allemagne. Le manifeste de création de l'International des Fous Furieux sera publié en français dans la revue littéraire Gulliver, et date à laquelle... Au premier semestre 1973, date à laquelle le manifeste du SPK, Faire de la maladie une arme, sera traduit en français chez Champ Libre. L'histoire du comité de lutte du Vinatier entre directement en résonance avec la lutte contemporaine du SPK. Alors, la pensée du collectif allemand, en effet, aura un impact considérable sur la pensée et la pratique politique de Gérard Hoff et du comité de lutte du Vinatier tel qu'il nous l'a transmet. Non seulement les thèses du SPK parcourent tout son livre, mais Gérard Hoff rencontrera le collectif en 1972 à Heidelberg lors de leur procès. Il continuera au moins jusqu'en 1976 à entretenir une relation épistolaire politique et amicale avec Wolfgang Huber, docteur lui aussi déserteur de ses fonctions médico-répressives et cofondateur du SPK. Je vais un peu plus loin. Le SPK entre en conflit direct avec les autorités universitaires et médicales. Leur manifeste, Faire de la maladie une arme, revient sur l'ensemble des procédés collectifs de ce qu'ils nomment l'agitation thérapeutique. La maladie n'est plus considérée comme un état dont on peut se rétablir, et la santé est considérée comme un concept biologico-fasciste. Elle signifie le retour de soi à ses capacités productives en système de production capitaliste. Doté des analyses de Karl Marx, mais aussi d'un livre alors récemment paru chez Maspero en France et écrit par Jean-Claude Polac, La médecine du capital, Paris Maspero 1971, le SPK opère une politisation du concept de maladie comme fait social et matériel. Elle est le lieu possible d'une pratique proprement révolutionnaire. Alors, une citation, on ne va pas trop vous saouler avec les situations du SPK, mais... parce que parfois, elles sont très alambiquées.
Oui, remarquez, je m'en viens. Oui. C'est vrai, parce qu'à chaque fois, je dis qu'est-ce que ça veut dire, et puis il reste quoi.
Alors, citation. Il n'en est que plus dérisoire de parler de médecine du travail. Notre société ne connaît pas d'autres spécialités. Toute médecine est acte de régulation de la capacité de travail. La norme du travail imprègne le jugement du praticien comme un point de repère plus précis qu'une valeur biologique ou physiologique mesurable.
Ça, j'ai tout compris.
Ah, voilà. Alors, or, non seulement dans la maladie se loge une limite interne à la reproduction du capital, donc est déjà aperçue par Marx dans ses analyses sur la longueur des journées de travail, puisque il cite, le préfacier cite Marx, si tout le monde est malade, personne ne peut travailler. Mais fin de citation. Mais aussi une force et un désir collectif. Qui peut embarquer avec elle tant les patients que les médecins, à condition de s'organiser à partir d'elle. Alors, autre citation du SPK. De l'autre côté, un malade vient au SPK avec le même espoir, ou presque, de guérison de sa maladie. Guérison entre guillemets. Là, l'examen physique et la prise en charge médicale, comprenant les médicaments et les soins, prennent un rôle subordonné. Le malade a plutôt l'occasion de réfléchir sur la cause et l'origine de ses maux et d'en discuter avec d'autres malades. Je lis pas tout. Le SPK n'hésite pas à établir un parallèle avec les luttes anti-impérialistes de libération du Vietnam. Ils se disent être en Allemagne l'équivalent des Viet Cong et se battent contre un autre impérialisme non moins lié, celui de la santé, avec un S majuscule.
C'est spécial quand même de s'identifier au Viet Cong.
C'est quand même une association assez audacieuse.
Ils n'avaient pas une vision un petit peu folklorique des luttes de ce genre, enfin, je me demande quoi. J'espère parce que
on pourrait dire qu'il y avait eu une convergence des luttes plus importante qu'aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Dès lors, la tâche des collectifs révolutionnaires des malades est d'organiser la contre-violence contre la violence qui nous est faite tous les jours, source de maladie.
Ça c'est oui.
Fondé au début de l'année 1970, le SPK sera actif jusqu'en novembre 1972, date de leur arrestation et procès. Novembre 1972. Les autorités sont submergées par le succès de l'expérimentation. Les assemblées du SPK sont passées de 50 à 500 membres. En mai 1972, la fraction armée rouge fait sauter le QG militaire états-unien de Heidelberg, entre guillemets, afin de paralyser la logistique des opérations engagées par l'armée américaine au Vietnam. Fin de citation. On ne sait pas s'il existe des liens réels entre les deux collectifs, mais des rumeurs circulent au sujet de caches d'armes appartenant au SPK dissimulées dans les caves de l'hôpital. Un coup de feu entendu aux abords du campus hospitalier donne un prétexte aux autorités pour intervenir. Une répression de l'ordre médical et médiatique est déjà en cours. En novembre 1972, une armada de policiers armés jusqu'aux dents avec quelques chiens et des hélicoptères s'abat violemment sur les locaux du SPK et entraîne l'arrestation de plusieurs de ses membres. Le procès a lieu dans la foulée. Ces informations viennent de SPK, Psychiatrie politique, l'affaire de Heidelberg, Paris, Maspero, 1972. L'événement retentit jusqu'en France. Des comités de soutien se créent. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Simone de Beauvoir, Jean-Claude Pollack et bien entendu Gérard Hoff se déplacent à Heidelberg. Plusieurs membres du SPK écoperont de lourdes peines de prison, dont le docteur Hubert et sa femme Ursel Hubert, qui seront soumis et soumises au confinement solitaire. Conditions de détention qui s'apparentent à la privation sensorielle, technique déjà connue de traitement carcéral des détenus politiques, aussi appelée torture blanche, et dont les prisonniers et prisonnières de la RAF subissent aussi les effets. La fraction armée rouge allemande. En 1973, c'est au tour du collectif du Vinatier en France de subir la répression psychiatrique et policière à la suite d'une grève au sein de l'hôpital. Gérard Hoff est expulsé du Vinatier. Malheureusement, nous en savons très peu sur les moments de lutte en eux-mêmes et encore moins sur toute l'envergure de la répression. Ce récit devait faire partie d'un second volume qui ne sera jamais écrit. On peut imaginer que c'est en raison de la répression que Gérard Hoff et Sonia, sa compagne de l'époque, fuient au Liban, pourtant déjà au bord de la guerre civile. Il semble que Sonia, la compagne de Gérard Hoff, aurait appartenu à la direction aux opérations extérieures dirigée par Wadi Haddad du Front Populaire de Libération de la Palestine. la FPLP. Dans leur fuite, Gérard et Sonia passent par l'Italie et sont hébergés par les membres du Fiori, présenté par Françoise Daubonne. Françoise Daubonne donc présente Gérard à ce collectif. Françoise Daubonne et Gérard Hoff se sont en fait déjà croisés aux réunions du FHAR, P-H-A-R, entre 1972. Les deux sont membres, voire fondateurs et tristes, du collectif Le FHAR, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Françoise Daubonne est hétérosexuelle, mais sa critique sans concession de l'hétéropatriarcat lui donne une assise importante dans le groupe. Elle participe aux actions et sera de celles et ceux qui organiseront le sabotage du Congrès international de sexologie de San Remo le 5 avril 1972. Le congrès porte sur le thème « Comportement déviant de la sexualité humaine ». On y parle encore de conversion sexuelle et de traitement aux électrochocs. Le Fiori s'est constitué il y a peu à Turin et c'est l'occasion de publiquement affirmer la naissance du collectif et de politiser l'homosexualité en Italie. Des collectifs belges, français et anglais sont appelés en renfort. Des manifestations ont lieu devant le congrès et Françoise Daubonne s'y introduit avec d'autres camarades. Elle s'empare de la tribune pour pointer les pratiques et théories politiques réactionnaires et répressives des, je cite, « fliquiatres » présent et présente dans la salle. Gérard Hoff ne semble pas y avoir été présent, ni rien ne l'indique, ni dans les écrits, ni dans les archives, ni sur les photos disponibles de l'événement. Pourtant, sans que nous en connaissions les raisons et circonstances exactes, ce sera vers ses camarades italiens que Françoise Daubonne les dirigera, lui et sa compagne, pour faire escale dans leur fuite. À son retour du Liban un an plus tard, en 1974, Gérard Hoff ne participera plus aux différents collectifs de lutte contre la psychiatrie, ni même au groupe Information Asile qu'il a pourtant participé à fonder. Il se rapproche du groupe Marge, groupe de l'autonomie désirante, dont la revue du même nom publiera l'un de ses numéros sur la psychiatrie, intitulé « Pourriture de psychiatrie
». On croit qu'il est passé à autre chose, et en fait, ouais. C'est un truc plus positif.
C'est positif, moi, je trouve.
C'est vachement dans la critique.
Oui, mais c'est positif, ce type de critique, ouais. Non.
Et Françoise Daubonne en sera tout aussi proche. Pour Gérard Hoff, les luttes contre la psychiatrie semblent être derrière lui, bien qu'il participe encore avec Françoise Daubonne à la rencontre de Paris en 1975 du réseau Alternative à la psychiatrie, fondé à Bruxelles par Moni El Kaïm et Félix Gattari. La rencontre de Paris se passe très mal. Gérard Hoff s'y serait battu. Ce sera cependant l'occasion pour Françoise Daubonne et lui d'y distribuer des exemplaires du manifeste du SPK directement récupéré aux éditions Champs Libres. Donc là, ces informations viennent de Romain Bonnel, Françoise Daubonne et les critiques radicales de la psychiatrie. Ce n'est qu'en 1976... un an après l'action contre la centrale de Fessenheim, lors de la publication de « Je ne serai plus psychiatre », que le désormais ex-psychiatre aura l'occasion de revenir publiquement sur l'épisode du Vinatier, puisqu'il sera invité dans la célèbre émission de Bernard Pivot, apostrophe. L'émission s'intitule sobrement « Qui est fou ?»
Tous les fous se la posent, cette question.
Ah oui, mais pas seulement, peut-être. Non, c'est vrai. Tu crois que tu vraiment il n'y a pas des gens que les psychiatres ont réussi à convaincre que en effet ils étaient malades, qu'il fallait essayer de les soigner, que c'est eux qui pouvaient les soigner? Tu crois pas qu'il y en a qui sont
des psychiatres
malheureusement...
qui disent que les fous peuvent soigner les psychiatres?
Non, je veux dire des psychiatres qui disent que des gens qui sont convaincus que les psychiatres ont convaincu qu'ils avaient un problème que seuls eux pouvaient éventuellement soigner, je crois,
c'est
malheureusement.
C'est le discours des experts, des spécialistes qui vous prennent en main.
Voilà, c'est ça.
Mais à part Gérard Hoff, je ne vois pas beaucoup de psychiatres qui se sont fait diagnostiquer d'une maladie mentale, quelle qu'elle soit.
Bah, je ne sais pas, peut-être, si tu veux, la différence, si, c'est qu'on l'a su. Excuse-moi.
Non,
c'est la différence, peut-être, c'est qu'il y en a peut-être eu en réalité plein, mais qui, effectivement, soit ne se sont pas fait diagnostiquer, soit qu'on n'en a pas fait de publicité. Je veux dire, c'est vrai qu'il s'est exprimé dans ce sens-là. Mais combien en réalité font absolument n'importe quoi, sont complètement névrosés, voire pire, et sont un peu comme Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, tu vois. Donc je sais pas, c'est difficile à dire, parce que quelque part, ce qui est particulièrement énervant chez les psychiatres, c'est le fait qu'ils pensent représenter justement l'idée de la santé mentale. Pas comme ceux qui se disaient parfaitement normaux et qui s'étaient fait interner alors qu'ils se définissaient comme parfaitement normaux. J'aurais bien aimé les regarder de plus près pour voir si j'aurais eu la même interprétation. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile de le savoir, parce que dans l'esprit de la plupart des gens, si tu es psychiatre, c'est que tu représentes la santé mentale, tu vois. Donc on n'en sait rien, en fait, de combien ont complètement pété les boulons, etc. Ça fera pas la une des journaux non plus, et on n'en parlera pas dans, ils en feront pas un bouquin non plus, où on saura qu'en fait ils avaient craqué, pété un câble, tu vois ce que je veux dire.
Ce qui apparaît dans ce qu'on dit, c'est que c'est difficile de discerner qu'est-ce qui, parfois, quelqu'un qui est, s'il a, de savoir s'il a une maladie ou pas, en fait.
Oui.
C'est pas très facile, pas toujours en tout cas. Et aussi, ça me fait penser que la folie ou ces concepts liés à la folie, la maladie mentale, tout ça, ce sont aussi des constructions un peu intellectuelles. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Gérard Hoff passe à la télévision. Le livre se vend bien. Il annonce l'écriture d'un deuxième livre sur la lutte du vinatier. Il pourrait finalement devenir l'un de ces auteurs contestataires à succès moqués par Guattari. Les événements prennent une autre tournure. La répression policière et médicale va s'abattre, encore une fois, tragiquement sur lui la même année, le marquant pour le restant de sa vie. Peu de temps après l'émission, Gérard Hoff repart en Allemagne de l'Ouest. On l'arrête alors qu'il voyage avec de faux papiers et de faux chèques. Son profil doit être connu des dossiers de police depuis Heidelberg, comme cela avait été en usage avec le SPK et d'autres groupes radicaux en Allemagne. Gérard Hoff refuse de décliner son identité. Il refuse de communiquer avec ce qu'il appelle la justice de classe. L'ex-psychiatre tombe sous le chef d'inculpation d'appartenance à une organisation internationale. La RAF est encore bien active en Allemagne. En 1975, alors que commencent les procès des premiers et premières membres arrêtés de la RAF, le commando Holger Mainz prend en otage l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest de Stockholm et y exécute deux diplomates. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère.
Non.
Le commando est nommé en hommage à l'un des premiers membres de la RAF, arrêté en 1972, quelques mois après l'attentat de Heidelberg, mort d'une grève de la faim en 1974 en protestation contre les conditions de détention inhumaines qu'il dut subir à l'hôpital-prison de Wittlich, dirigé par le docteur Hütter. La mort de Holger Mainz, selon les mémoires de Françoise Daubonne, avait déjà profondément bouleversé Gérard Hoff. Comble du sort, il sera incarcéré au même endroit, sous la direction du même médecin-chef, en 1976. Alors, c'est issu de Françoise Daubonne, Mémoire irréductible. Durant son incarcération, Gérard Hoff écrit « L'obligation sensorielle » qui revient sur les actes de torture blanche ou torture propre, orchestrés par le docteur Hütter. En prison, son état psychique et physique s'aggrave fortement. Gérard Hoff, qui est épileptique depuis un accident de jeunesse, n'a pas besoin de traitement dans la société libre. En prison, ses crises d'épilepsie reviennent, on lui refuse les traitements adéquats et on le surstimule par des méthodes désormais connues. Voir à ce propos Ulrich Meinhof. Ce qu'il nomme, à la différence de la privation sensorielle ou du confinement carcéral, l'obligation sensorielle. Sous la pression de son avocat et de ses proches, il arrivera à faire publier ce qui deviendra le préambule à l'obligation sensorielle, la lettre ouverte au docteur Hutter.
Privation sensorielle, c'est de l'isolement, c'est ça ?
Oui, un isolement est en fait... Où l'on est privé de tout stimulus possible.
Là, comme pour dans le pavillon, on avait fait une émission sur le pavillon des enfants fous de Valérie Valère, une jeune fille qui était écrivain, par ailleurs qui est décédée très jeune, suicidée, hein, je pense. Mais elle avait été. J'ai une copine à qui c'est arrivé. On les mettait à privation sensorielle, c'est-à-dire que elles étaient dans une chambre toute blanche. Et elles avaient ni quelque chose à lire, ni personne à qui parler, ni rien à faire, quoi. Et on leur donnait, par exemple, un journal ou le droit de parler à quelqu'un, que si elles acceptaient de manger quelque chose. Donc il y a eu tellement de bavures, si on peut dire, qu'ils ont fini par abandonner l'idée, parce que ben il y avait des suicides. Ma copine qui avait subi ça étant ado. Elle m'avait dit que bon, elle sortait, elle se scarifiait, elle était dans un état affreux, évidemment. Et quand elle avait appris qu'en plus, on faisait ça pour briser des terroristes, des gens adultes et puis plutôt endurcis, et que c'est le traitement qu'on réservait à des jeunes filles fragiles, elle en revenait pas, quoi. Mais enfin, c'est considéré comme une torture, je crois même par Amnesty International, il me semble, c'est considéré comme une torture et c'en est une.
Ouais, c'est ce qu'on appelle la torture blanche, là.
Oui, voilà. Oui.
Et alors, les obligations sensorielles, excuse-moi, Denis, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on appelle après privation sensorielle les obligations?
Moi, je pense que ça doit être un peu comme on voyait d'ailleurs dans Le Silence des Agneaux, le fait de mettre à fond la caisse de la musique tout le temps, des trucs comme ça.
Voilà, c'est-à-dire que là, c'est, au lieu que ce soit une sous-stimulation, c'est une sur-stimulation.
Voilà, ouais.
Alors, donc...
Ce qui doit être aussi assez...
Ou de la lumière.
Oui, de la lumière.
Et des gros flashs. Ouais.
Voilà.
Tu sais plus s'il fait jour ou il fait nuit. Enfin, le truc.
Ouais, on travaille tout le temps. Ouais. On te demande qui tu es. C'est comme ça. Mais ça se pratique hein, dans les commissariats actuellement.
Bah oui, c'est pour ça. C'est une torture, quoi. Donc,
C'est pour voilà, déstabiliser. Pour
oui, mais prétendument, c'est pour soigner des gens par la torture. Moi, je veux bien, mais enfin, tu me diras, il y a beaucoup d'histoires de torture hein, dans l'histoire du prétendu traitement de la prétendue folie.
Donc, Gérard Roff, lettre ouverte au docteur Hutter, médecin directeur à l'hôpital prison de Vitli, RFA. Qui est donc paru aux inéditions Barbare en 1977. Donc, publié en express pour les circonstances par les inéditions Barbare, afin d'alerter à l'occasion de son procès du traitement inhumain qu'il subit. Le moment est tendu en Allemagne de l'Ouest et les conditions de détention des détenus politiques servent d'outil de répression contre-révolutionnaire. Plusieurs des membres détenus de la RAF sont soumis et soumises à l'isolement strict. Katharina Hammerschmidt meurt en prison de manque de soins et Ulrike Meinhof est retrouvée, entre guillemets, suicidée le 9 mai 1976 dans sa cellule à Steinheim. La lettre ne manque pas de faire des rapprochements entre appareil politique répressif du carcéral et du médical. Gérard Roff est de plus en plus persuadé du rôle actif de la CIA et des autorités états-uniennes dans la répression qui s'abat en Allemagne et en Europe. Il écrit à l'adresse du docteur Hutter dès les premières pages. Alors, enfin une citation de Gérard Roff, aujourd'hui dans l'entonnoir. Vous êtes l'officiant sinistre à un niveau élevé dans l'échelle hiérarchique de la grande entreprise de destruction et de mort programmée dans différentes prisons d'Europe et d'ailleurs par le branchement direct, discret de la CIA sur les anciennes structures pénitentiaires. Les prisons ont toujours été, par définition, des entreprises de destruction à un niveau collectif. Votre originalité vient du fait que, par le branchement discret d'une superstructure administrative et matérielle, télécommande au pluriel, sur une infrastructure vétuste, par le moyen de techniques modernes, médicales et acoustiques détournées de leurs fonctions, vous êtes à la tête d'une équipe qui pratique sciemment, scientifiquement, un programme de destruction personnalisé à chaque cas où chacun peut mourir d'un instant à l'autre, vite ou lentement, en fonction de son intérêt expérimental, en fonction du fait qu'il est devenu indésirable ou non. Fin de la citation. Soumis à un régime très strict d'enfermement, surpsychiatrisé par le même médecin qui provoqua la mort de Holger Mainz, Gérard Roff poursuit sa description très concrète et détaillée de l'univers psychiatro-carcéral, à la différence que, cette fois-ci, il n'est vraiment plus psychiatre. Nous sommes au cœur de l'institution, elle est faite pour tuer et rendre fou dans l'isolement, qu'il soit physique ou social. Peu de possibilités de réponse collective sont permises. Gérard Roff s'identifie aux révolutionnaires allemands et allemandes incarcérés et torturés, elle et il aussi. Les analyses du SPK continuent de lui donner un appui théorique et politique concernant l'analyse des conditions carcérales en lien avec celle de la psychiatrie. Donc je recite Gérard Roff. Puisque nous en sommes à la rubrique des poisons, j'en profite pour parler de votre façon de traiter mon épilepsie. La place me manquera pour entrer dans le détail. Disons que vous avez tout fait pour installer une dépendance thérapeutique. Vous autres médecins, vous êtes tous pareils. Il faut absolument que vous fassiez entrer le phénomène de la maladie dans le cadre du temps de la production capitaliste, où chaque jour se suit et se ressemble avec la régularité d'une pointeuse. La prescription régulière par jour est votre religion. Que la maladie, qui, dans sa période initiale, est maintenant devenue d'abord réaction de refus à ce rythme même, échappe à votre entendement. Que le cycle de la femme se conforme au cycle lunaire et non pas au calendrier des jours fériés choque profondément votre éthique. Votre fonction n'est pas de réconcilier l'homme avec sa biologie, mais de réduire sa biologie aux impératifs de la production. Chasser le naturel, il revient au galop sous forme de maladie, mais ce n'est pas vous qui le déploreriez, puisque la maladie, vous vous en nourrissez. J'avais beau vous expliquer que dans le civil, je restais des mois sans traitement ni crise, que simplement j'avais toujours un comprimé de barbiturique dans mon sac, sachant à certains signes quand il valait mieux que j'en prenne, vous me proposiez soit un traitement bulldozer quotidien, soit pas de traitement du tout. Je n'en attendais pas moins de vous. Vous étiez le énième médecin à me faire le coup. Si je les avais écoutés, je ne donnerais pas cher de ma tête alors qu'il est conglomérat de neurones fatigués d'avoir vu passer toutes les drogues de vos différents cocktails miracles, de vos différentes potions magiques. Donc ça, c'est un extrait de l'obligation sensorielle de Gérard Roff. L'affaiblissement psychique et physique de Gérard Roff lui laissera des séquelles irréversibles. Ses crises d'épilepsie se font trop fréquentes. Sous la pression de ses proches et de ses avocats, il est rapatrié en France à la prison de Sarreguemines en 1977 et libéré quelques mois plus tard en conditionnel. Durant cette période, il éditera une brochure d'un comité de soutien aux détenus politiques dans lequel il s'inclut. Alors, la note dit « La brochure insiste sur les membres incarcérés des GARI, créés à la suite du 1000 MIL et du garrotage de Puig Antich, soulignant à nouveau l'importance pour Off de ces milieux. » C'est son adresse auprès de Stock, son premier éditeur, qui est donné comme adresse de correspondance et sa notice est écrite tant à la première qu'à la troisième personne témoignant de son implication. À sa sortie de prison en 1977, il continue de côtoyer Alain Lezongard, avec qui il militera contre les quartiers de haute sécurité, QHS, avec d'autres camarades, jusqu'à leur rupture en 1979. Un projet d'écriture est entamé avec Daubonne sur le lien entre la médecine et la loi. Un grave accident de voiture en 1980. Il est renversé sur un passage piéton sur les Champs-Élysées, suivi d'une période de coma, aggrave encore plus son état psychique. Il n'aura pas l'occasion de continuer l'écriture de l'ouvrage, mais son nom est désormais est néanmoins accolé à celui de Françoise Daubonne comme auteur. Nous savons par Elliot Bess, alors incarcéré pour son implication dans Action Directe et avec qui il aura une correspondance, nous savons donc que Gérard Hoff campe souvent devant la prison, interpellant sauvagement les gardiens qui en sortent au cri de « Libérez Elliot !» Gérard Hoff est de plus en plus médicalisé, ses séjours en institution sont de plus en plus fréquents. Dans ses mémoires, Françoise Daubonne raconte que, bien que placé volontairement, il s'évadera de l'une d'entre elles afin de refuser le traitement. Il faut s'y attendre, Gérard Hoff ne vit pas bien d'être entouré de tant de psychiatres.
C'est vrai que ça, c'est l'enfer sur la terre, l'horreur.
Au fur et à mesure, nous perdons sa trace, il décédera en institution en 2011. Françoise Daubonne, elle, décédera en 2005. La révolutionnaire écoféministe tiendra sa promesse, ce fut bien le nom de Gérard Hoff qui accompagna ses derniers mots. Ses mémoires se finissent sur ses passages en 2000. Et Gérard, du cas Gérard, je reparlerai en dernier. Comme chaque vendredi, Gérard vient me chercher pour dîner. Voilà bientôt 2 ans que cette coutume est respectée et que je n'en saisis pas le sens. Une piqûre retard par mois à stopper le délire de l'ex-psychiatre et le rend capable d'un minimum d'insertion sociale. Sa parole et son expression écrite ont été éradiquées sans retour. Si je lui lisais la page la plus brûlante de « Je ne serai plus psychiatre », me demanderait-il « C'est de qui ?» Froid polaire à cette idée. La voix, où est-elle allée ? Avec les années mortes, disparue comme la siamoise mandarine, j'affronte la douleur de croiser son regard. Mais il n'y en a pas ce soir. Le brin doré de ses yeux, dont les jeunes camarades du squat, de l'AGK ou de la radio, disaient « Il brille comme du diamant, n'existe plus que comme une vitre obscure. C'est une absence, même pas un minéral. » Mais dans l'archipel des mots sur cette sombre immensité s'allument ça et là isolés de petites lumières. Ce ne sont pas les feux d'un crépuscule, mais des braises d'un passé qui fut resplendissant. Des étincelles d'une âme engloutie, de petits coups contre la paroi du cercueil. Si seulement de l'une à l'autre de ces furtives brillances courait une ligne qui les relie. Mais c'est illusoire, je ne puis la discerner, la marque, l'empreinte. Le bouillant agitateur, l'auteur des pages si remarquables, est enfermé dans un lieu hors d'atteinte et hermétiquement clos. Fait-il seulement un effort pour bouger en réponse à mes timides appels ? Je prête l'oreille en vain. Non, on n'entre pas. Allez-vous-en, il n'y a personne. Qui sait si des délires dans le style Bryan, si cruellement raillés, ne furent pas le seul moyen d'échapper à ce néant ? Plus qu'aux atroces incertitudes existentielles d'un monde comme celui de la crucifixion. Je ne sais pas à quoi elle trouvait faire référence.
Non plus, mais là je ne te pose pas la question qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je pense que
j'ignore si le choix ne se posa jamais pour le buste de plâtre. Alors là, c'est une expression qui fait référence à Gérard Hoff. Je crois plutôt à la fatalité médicale des piqûres de rappel, la fatalité médicale des piqûres de rappel administrées une fois par mois, seule camisole chimique stoppant les convulsions du mental perturbé. Naguère, le psychiatrisé m'a décrit cette paralysie, cette ankylose qui mettait fin à ses extravagances et l'enfonçait peu à peu dans les limbes. Grand avantage que de supprimer la sectorisation des malades. À l'internement extérieur succède l'enfermement en soi. En quittant Gérard pour les lieux quotidiens où tout bouge, évolue, frémit et bruit sans relâche, je ne peux lui dire « Viens, suis-moi, revis !» Lui qui, jadis, par sa seule présence, sa seule écoute, me faisait pétiller et crépiter, jaillir du plus profond de moi des pensées et des propos que j'ignorais avant notre rencontre, qui s'élevait aussitôt en constructions imprévues et aussi merveilleuses que celles façonnées en rêve. N'en reste-t-il donc rien ?
cela ne reviendra jamais. Tandis que la bûche tombe en cendres, il faut aviver le feu qui réchauffe encore le crépuscule. Françoise Daubonne, mémoire irréductible.
Et à la fin, donc, il était un peu Alzheimer, donc il avait perdu la mémoire. Non, c'est ça qu'elle explique.
Bah oui,
c'était un peu vidé de sa substance.
Il avait vraiment des problèmes, ou je sais pas comment on peut dire. Je ne suis pas médecin, mais voilà, des dysfonctionnements cognitifs assez importants.
Ce qui est pas très clair, ce qui est pas sûr. C'est même dans le texte que tu as lu, qui est vraiment bouleversant, hein, je trouve. C'est vraiment bouleversant, mais est-ce que, malgré tout, quelle est la part des médicaments dans son état d'absence, justement? Tu vois, le fait que pour guérir, entre guillemets, ses crises, l'alternative, ce serait de le changer en légumes, finalement.
Oui.
Non, t'as pas eu cette impression dans le descriptif ?
Moi, je pense qu'il y a dû y avoir un acharnement contre lui pour en faire un légume, ouais, pour empêcher sa parole, puisque c'est quelqu'un qui avait été dans le système et a vu des choses très, très dures, très cruelles, qu'il a voulu lui dénoncer. Et en plus, c'est quelqu'un qui savait parler, qui savait écrire et qui passait à la télévision. Donc je pense que des gens comme ça, quand ils ont du succès, il a réussi apparemment à vendre beaucoup d'exemplaires de son livre « Je ne serai plus psychiatre », évidemment, ils sont l'objet d'une répression énorme, féroce. Et peut-être qu'il aurait dû lâcher le brillant, le diamant de ses yeux. Ont peut-être trop brillé dans la contestation. Il aurait mieux fait de à un moment donné, peut-être de prendre un peu de retrait. Enfin, d'être là toujours, mais de pas s'afficher, tu vois. Mais par contre, il a fait un beau livre. Il sait bien de fermer toute une vie. Évidemment, qu'ils vont s'acharner à te détruire.
Oui, d'ailleurs, il raconte aussi, dans des annexes du livre, on peut lire aussi des récits qu'il fait des violences policières qu'il subit en Allemagne. Voilà. Et d'ailleurs, lui ne perd pas son esprit de provocation et ne se soumet pas, est toujours dans une sorte de combat permanent contre cette autorité-là.
En même temps, je trouve que, justement, c'est comme cette répression montre bien qu'il n'exagère pas dans le... Enfin, même le SPK, hein, c'est ça, n'exagère pas dans le fait de dire que c'est un point de départ d'une critique vraiment radicale de la société, la notion de maladie, qu'elle soit physique ou mentale. Puisque si c'est réprimé avec une telle violence, c'est que c'est réellement quelque chose de central, quelque chose de dérangeant.
Qui dérange sans doute les privilèges de ceux qui sont bien installés dans ce système-là.
Oui, et que c'est quelque chose... Enfin, la notion de normalité et d'anormalité est quand même un pivot de tout le système. Il parle du travail, mais effectivement, on avait projeté aussi un film avec l'émission L'Entonnoir, qui s'appelle Bon pied, bon œil et toute sa tête, et qui date des années 70, c'était ce qu'on appelait les handicapés méchants, mmh. et donc aussi des gens handicapés physiques présentés comme ça, quoi.
Oui, je trouvais d'ailleurs que le discours de ce film ressemble un peu parfois au discours du SPK. Enfin,
voilà, j'y pensais, parce que justement le fait d'accès sur le fait que on ne voit dans les individus en réalité que leur puissance de travail. À un moment ils disent pour les soi-disant les guérir, tu vois, si ils sont guéris, s'ils peuvent encore travailler, t'as peut-être encore un doigt qui fonctionne, que tu peux peut-être en faire quelque chose. Et que en fait c'est leur seul critère, c'est la capacité à produire, en fait, hein.
Voilà. Peut-être Gérard Hoff a oublié de penser à lui. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'il ne soit plus là. Et qu'il s'est totalement dédié à sa lutte. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres vivants et qu'on aime être là, quoi. Mmh. On aime que l'autre soit là, qu'il soit toujours là. Faut pas l'oublier, faut penser à soi, faut aussi se défendre, quoi, se protéger. Mais bon, ce qu'il a fait, c'est remarquable. Hein. Mmh. Mais donner une vie pour ça, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'en mourir, quoi. Et on n'est pas obligé de disparaître.
Il n'avait pas, peut-être pas pensé que ça irait jusque-là. Voilà. Est-ce que je peux juste dire un truc, c'est que si vous voulez, par exemple, donc j'ai dit qu'il était en vente à Publico, mais si les gens sont impécunieux, ils peuvent se poser sur un fauteuil et lire sur place, quoi, le bouquin, sans problème.
Les canapés sont très confortables à
très
Publico.
Confortables.
Et voilà, et je ne serai plus psychiatre, eh bien on peut aussi le trouver à Publico et dans d'autres bonnes librairies. Voilà. Eh bien, là, peut-être une prochaine fois, nous parlerons des médicaments.
Est-ce que tu es sûr de ne plus avoir rien à lire ? Excuse-moi, mais c'est vrai, c'est pas, je plaisante pas.
Ah oui, non, mais.
Non, effectivement, tant qu'à faire, autant faire dans la foulée.
Il y a toute une richesse de documents dans ce livre. En fouillant, par exemple, dans les annexes qui sont. Dont on a aussi lu une partie d'ailleurs aussi qui peuvent aussi être très, très instructifs, mais ça équivaut à lire quasiment tout le livre finalement. Voilà, donc nous vous offrons peut-être une fois de plus, une fois prochaine, la lecture de
Gérard Orff, Le Retour.
Je ne serai plus psychiatre.
Il revient, il n'est pas content.
Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on va. Oui, aujourd'hui, comme tous les 15 jours, on va écouter l'émission Un rayon de soleil. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Au revoir.
Ils sont nés. Des fois, je rêve d'Espagne, d'Amérique ou d'ailleurs, de plage ou de montagne, pour y poser mon cœur. Mais mon avenir est là.
Soleil. Tu
Bonjour à tous, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans dieu, sans maître et sans publicité. Radio Libertaire, vous pouvez la retrouver sur 89.4 sur Paris et la région parisienne, en DAB+, c'est-à-dire en radio numérique terrestre, aussi sur la même région parisienne et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. Voilà. Ben, aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à une lecture du livre d'Émile Pouget. On vous en avait déjà passé quelques extraits sur le sabotage. On va regarder les chapitres qu'on ne vous a pas passés. Vous pouvez toujours aller rechercher dans nos archives les deux chapitres qu'on vous a déjà passés et qui ne seront pas diffusés aujourd'hui. Mais l'émission, ça a paru suffisamment intéressant de reprendre la totalité du fascicule par rapport à l'actualité. Voilà, on commence tout de suite l'émission avec un petit peu de musique.